Carnet de campagne, bonjour. C'est la dernière étape dans le département du Vaucluse et tout d'abord un mot de soutien au centre de sauvegarde de la faune sauvage. C'est un centre régional à Buoux. Il est géré par la LPO et il est un des principaux centres de soins donc de Provence. Ce centre recueille 1500 animaux chaque année, mais faute de renouvellement des aides financières suffisantes pour maintenir ses activités, il est contraint depuis le 7 février de ne plus recevoir de nouveaux pensionnaires. Si vous souhaitez soutenir les éco-volontaires qui animent ce lieu indispensable à la biodiversité, vous serez évidemment les bienvenus et vous avez un lien pour entrer en relation avec ce centre de Buoux. Nos pages d'émission. En revanche, une meilleure nouvelle, un supermarché solidaire a ouvert ses portes à Avignon. On le doit à l'association Ensemble Mieux Vivre en Vaucluse, installée en zone de fond couverte. Ce lieu veut être entendu comme un vrai supermarché, à la seule différence que les produits sont vendus à petit prix aux personnes démunies. Ils proviennent tous de dons de la grande distribution ou des entreprises qui offrent des articles de première nécessité, mais aussi de qualité. EMVV pour l'adresse de l'association, emvv.fr. L'exemple même de la solidarité constructive est incarnée aujourd'hui par la fondation Agissons pour l'emploi, dont Marc Hernandez, premier invité, le porte-parole, à lire l'article que Laurent Gibowski lui consacre dans les pages numériques de La Vie. Où en est la ZAD, oui on change de lieu, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai qu'on en parle peu et pendant des années, le site a fait les grands titres avant de retourner, une sorte d'oubli actuellement. Pourtant, un programme d'achat des terres et du bâti est en cours sous le nom de la Terre en commun. Explication dans la seconde partie de ces carnets.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Marc Hernandez, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Je suis ravi qu'on puisse parler avec vous de la fondation Agissons pour l'emploi créée en 2014 avec Pôle emploi. Vous êtes médiateur de l'emploi à cette fondation. Vous avez été chef d'entreprise, retraité depuis peu. Avant d'expliquer la médiation et la fondation, il y a un bruit qui court, qui m'agace personnellement, qui consiste à dire que beaucoup de personnes se satisfont du chômage parce qu'elles sont dans de meilleures conditions que si elles travaillaient. Vous pouvez nous rapporter la réalité des choses?
Oui, non, c'est tout à fait effectivement important de parler de ça. Le chômage, c'est une grande détresse pour les personnes qui sont particulièrement éloignées de l'emploi. Je veux dire, au bout de quelques mois, si elles n'ont pas raccroché sur un travail durable, eh bien, petit à petit, elles vont perdre confiance, elles vont vivre quelque chose d'absolument terrifiant, de devoir se justifier, de perdre un statut, de perdre la confiance en elles. C'est quelque chose de compliqué.
Oui. Vous parlez, vous, avec votre expérience de chef d'entreprise en disant « Nous, on a souvent des besoins de recrutement, sauf qu'on ne trouve pas les candidats qui correspondraient à nos recherches. »
C'est exact. J'ai vécu ça particulièrement depuis la crise économique de 2008, où on pensait au contraire en trouver beaucoup de monde et très facilement avec les entreprises qui étaient en difficulté. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc aujourd'hui, nous, on s'est posé ces questions à la Fondation Agissons Pôle emploi, mais on n'est pas les seuls à se les poser. Naturellement, le Pôle emploi et tous les acteurs de l'emploi y réfléchissent de concert. Tellement bien que la DGA, Direction Générale de l'Armement, qui est un de nos mécènes, s'est posé ces questions parce que la DGA a constaté que ses sous-traitants, les Thales, les Dassault, les grandes entreprises, sans arrêt, disaient à peu près la même chose. Nous avons du mal à tenir les délais parce que les PME, qui sont des sous-traitants de niveau 2, de niveau 3 ou même de niveau 4, bien peinent à recruter. Voilà.
Alors, comment vous procédez avec la Fondation Agissons pour l'emploi? Parce que vous êtes donc l'interface entre les entreprises et Pôle emploi et donc les demandeurs d'emploi.
Deux actions. D'abord,
oui.
Nous, on a deux actions essentielles. La première, c'est d'abord, nous partons de l'économique. Nous allons voir les entreprises, les PME qui cherchent et qui ont des difficultés à trouver des candidats pour bien comprendre d'une part leurs besoins, mais aussi leur parler de rapprochement de l'offre et de la demande. Et donc, nous avons un premier rôle qui consiste à travailler l'employeur-habilité. Et on parlait souvent de l'employabilité des demandeurs d'emploi,
exactement,
bien sûr. Mais il faut aussi que l'entreprise revoie sa copie, parce que si toutes les entreprises cherchent en même temps des gens jeunes, diplômés, parlant anglais, avec 10 ans d'expérience et une qualification particulière, eh bien, on ne va pas les trouver. On sait que ça marche de ça. Donc, l'employabilité, pour nous, c'est ça. C'est déjà aussi une remise en question de la demande de l'entreprise et d'expliquer aux entreprises le chemin qui reste à faire.
Ouais, mais c'est aussi, Marc, une remise à niveau des compétences de la personne en quête d'emploi.
Alors exactement. Ensuite, la deuxième tâche qui va suivre, c'est de rencontrer ces demandeurs d'emploi. Donc le Pôle emploi va nous y aider, les missions locales, les garanties jeunes, les associations en tout genre. Bref, nous allons rencontrer ces gens, les auditer, discuter avec eux de leur potentialité. C'est ça qui nous intéresse. Je vous dirais par exemple qu'une personne, une dame qui est piqueuse en maroquinerie par exemple, eh bien, elle peut devenir opérateur d'usinage en fraisage sur machine à commande numérique parce qu'elle sait déjà lire un plan, elle travaille sur un patron, elle a l'habitude de monter des outils sur sa machine à coudre, elle a une certaine capacité également à vérifier le travail qui est fait, mesurer, contrôler. Elle est capable donc d'enchaîner des tâches complexes et assez fines en termes de résultats. Et finalement, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut faire quand on est opérateur en usinage de commande numérique.
Voilà. Alors, depuis 2014, je résume, la création de la Fondation, vous avez redonné du travail à 800 personnes dans 110 entreprises. Plus de 90% de ces personnes sont toujours en emploi 2 ans après leur démarche. Vous intervenez sur quel bassin de population, vous, Marc, avec la Fondation ?
Effectivement, alors nous sommes intervenus au démarrage de la Fondation Agissons pour l'Emploi. Nous étions sur l'ouest de la France, la région nantaise, où nous travaillons sur le numérique. Là, actuellement, moi, j'interviens sur la région de Valence et une partie de l'Ardèche. Et c'est effectivement plus de 800 personnes, puisque actuellement, je peux vous annoncer, Philippe Bertrand, qu'une promotion est partie dans des entreprises, 12 personnes de plus, qui vont faire cette formation qui va les amener, au bout de 15 mois, à devenir relativement autonome sur le métier d'usineur. Mmh. Nous les accompagnons pendant 2 ans.
Très bien, bravo. On a envie que toutes les régions assimilent le processus pour les personnes éloignées de l'emploi, au chômage, loin du travail, loin de la société, avec cette grosse fracture que l'on connaît. agissonspourlemploi.fr. Il y a Agissons pour l'emploi aussi avec sa page Facebook. Tous les liens, comme toujours, à nos pages d'émission. Merci beaucoup Marc et continuez.
Merci à vous.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
On ne peut que se féliciter de voir des communes mettre en avant des projets alternatifs. C'est le cas de la mairie d'Avignon, nous rejoindrons le jeu tout à l'heure, qui porte avec un collectif d'artistes la transformation de l'ancienne prison Sainte-Anne en friche artistique. En 2015, la ville lançait en effet un appel à projet pour donner une nouvelle vie à ce site qui était à l'abandon depuis 13 ans. Le souhait était de créer une dynamique nouvelle avec de multiples activités réunies dans le même site. Restaient 700 mètres carrés destinés cette fois à accueillir de jeunes artistes et plasticiens, des artisans d'art en quête d'ateliers de travail et de création. Et ce sont principalement des candidats des arts visuels et des arts plastiques qui ont choisi de participer à ce projet culturel. La livraison de la friche totalement aménagée est annoncée de début 2020. Ça avance vite. Il faut maintenant trouver un mode de gestion de l'ensemble et un nom à cet édifice transformé. Alors parmi les noms qui avaient été avancés, il y en avait une 60. Seuls 6 ont été retenus et choisis par vote, dont un en référence à l'ancienne vocation du lieu qui me plaît bien, la mutinerie. Je trouve que pour qualifier l'innovation et la création hors des sentiers battus ou balisés, c'est pas mal, la mutinerie. Affaire à suivre, vous allez trouver un article et un lien avec le site de la commune et ce projet qui entre dans les grands projets avignonnais. Emma, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci pour votre courrier, vos courriers, et grâce à vous, nous avons enfin des nouvelles de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce que finalement, plus personne n'en parle aujourd'hui, alors que vous êtes en ce moment en cours de projet et d'installation avec la Terre en commun. Alors, une explication sur la Terre en commun.
La Terre en commun, donc c'est un fonds de dotation qui s'est créé il y a quelques mois. Donc c'est parce qu'après l'abandon de l'aéroport, il fallait trouver une solution pour pouvoir conserver les terres protégées par le mouvement et donc faire perdurer les activités qui se sont développées, l'expérimentation assez inédite qui s'est faite sur la ZAD. Et donc on a proposé diverses solutions type l'ARZAC qui n'ont pas vraiment été acceptées. Donc ensuite il nous est apparu ce système de fonds de dotation qui permet une acquisition sans part ni action. Donc ça fait que le fonds de dotation devient propriétaire de l'ensemble des terres et des bâtis. Il n'y a personne qui peut se revendiquer de la propriété individuelle. Mmh. Donc ça fait qu'il y a un cadre, une protection en fait pour garder un projet collectif. Ce qui est intéressant, c'est que le fonds de dotation peut attribuer des baux soit des baux de carrière, des baux suivant les nécessités d'habitation. Et donc ensuite, les personnes qui sont déjà sur la ZAD peuvent continuer à y vivre, à avoir des activités, et puis éventuellement, ça, on pourrait accueillir évidemment d'autres installations.
Oui, parce que, petite question Emma, ces terres de la zone ainsi que le bâti appartiennent à qui jusqu'à présent ?
Alors, c'est un peu compliqué. Pour le moment, les terres, une partie appartiennent à l'État qui est en train de rétrocéder au conseil départemental avec lequel on est en discussion, disons en négociation. Donc c'est un petit peu complexe, mais en tout cas, on attend. Pour l'instant, on est en discussion. Plutôt, on s'attend à avoir de bonnes réponses, de bonnes solutions pour pouvoir continuer à vivre sereinement nos projets.
Donc les particuliers peuvent participer à ce fonds de dotation et bénéficier de réductions d'impôts.
Oui, tout à fait. C'est à hauteur de 66% du montant des versements et dans la limite de 20% du revenu imposable, donc il faut être imposable. Voilà. Toutes ces informations là pour faire ces dons, ce sera sur notre site internet qui est encommuntoutattaché.eco. Et c'est vrai que là, il y a une urgence vraiment à acheter les terres dès qu'elles seront disponibles, à acheter les bâtis pour pouvoir continuer nos projets de vie. Mais aussi, c'est possible de diffuser évidemment l'existence du fonds de dotation à travers ses propres réseaux, dans ses cercles d'amis, etc. Donc ça, c'est aussi une façon de nous aider. Et aussi, c'est possible, on va faire appel à du mécénat, de fondations, d'entreprises. Donc ça peut être des grandes, des petites entreprises.
Et Emma, question, donc il y a des activités qui sont déjà en place là sur le site?
Oui, bien sûr, ça fait des années, donc il y a déjà des activités en place. Il y a vraiment toutes sortes de projets, que ce soit en matière d'agriculture, avec de l'agroforesterie, de l'apiculture, de l'élevage, du maraîchage bio. Il y a toute une dynamique autour du bois, de la forêt, comment prélever du bois tout en améliorant la diversité de la forêt. On a une série des chantiers de construction, il y a de l'artisanat, il y a de la forge, du travail du cuir, de la poterie. Voilà, il y a toute une partie de des productions qui alimentent un circuit interne dans un système d'échange non marchand. Voilà, il y a une partie aussi qui va à de la vente en circuit court. Et il y a aussi pas mal de production qui va pour du soutien dans des réseaux de ravitaillement, sur des piquets de grève. Ça, on a vraiment cette envie de préserver le lien avec les autres luttes. Puis voilà, puis il y a des espaces d'assemblée, de concerts, de discussions, bibliothèques.
Et vous vous donnez une date butoir pour participer et contribuer à cette œuvre de la Terre en commun ?
Non, pour l'instant, il y a surtout une urgence là à réunir les fonds de 3 millions d'euros pour pouvoir acquérir donc les terres, les bâtis, etc., dans lesquels on habite déjà d'ailleurs. On a déjà réuni 250 000 euros. On a encore tout à fait l'espoir d'arriver à acquérir un maximum d'argent pour pouvoir continuer ce projet-là.
Voilà, il y a un bouillonnement local qui est porteur avec la Terre en commun. Donc je rappelle le site, c'est encommun.eco et vous avez l'onglet contribuer pour participer. Puis il y a la page Facebook aussi, la Terre en commun tout simplement. Merci Emma.
Merci beaucoup Philippe.
La semaine prochaine, nous serons en Charente-Maritime avant d'aborder la Gironde. Et puis, rappel à nouveau, Lot-et-Garonne, Puy-de-Dôme, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie dans les prochaines semaines. Merci à Nuro qui réalisait les carnets, Joël Levert qui leur donnait du contenu. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume, comme Clément Berman aujourd'hui, Nicolas Souffle assisté de Yann Payret. C'est la dernière du jeu à Avignon.